Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un si grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui est arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. C'est la parole de Dieu. Prions avant d'écouter la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui nous parle de Jésus, ton Fils, de ce qu'il a, de ce qu'il est venu faire sur la terre. Père, tu sais que sans ton aide, nous ne pouvons pas vraiment savoir qui il est. Père, je te supplie de m'assister, d'assister chaque personne ici. Père, afin que nous ne n'entendions pas ce que je vais dire, mais que nous regardions ce que tu dis dans ta parole. Et par ton Saint-Esprit, aide-nous à voir qui est Jésus. Aide-nous à voir sa grandeur un peu plus. Père, fais-nous voir ce que cette parole veut nous montrer sur qui tu es, sur ce que tu fais, en particulier au travers de ton Fils. Père, nous te prions ça en son nom. Amen. Donc, nous sommes dans les rencontres de Jésus. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis énormément béni par ces messages, par ces messages que Dieu a apportés. Moi-même, en préparant, à chaque fois que je dois me plonger, j'apprends sur qui est Jésus. Et je crois qu'apprendre sur qui est Jésus, c'est la chose la plus importante pour un chrétien. On ne va jamais s'arrêter. Jésus est Dieu. Il y a tellement de facettes à sa personne. Et on connaît Jésus, amour qui est venu nous sauver par sa grâce. Mais si on voit une autre facette de Jésus, sa puissance, on nous dit que les hommes ont été terrifiés en le voyant. Dans ce passage nous révèle la puissance de Jésus. Et le titre de ce passage, c'est la rencontre de Jésus avec des hommes morts de peur, avec Jésus et les hommes terrifiés. Donc, nous allons regarder les deux histoires. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que vous répondiez en vous-même. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie? Enfin, je parle pas des phobies, des cafards, des araignées, des choses comme ça, mais je dis qu'est-ce qui fait vraiment peur? J'ai regardé le top 10 des choses qui font peur aux gens. En premier, la mort. Ça rejoint la peur de souffrir, la peur de perdre un être cher, etc., etc. Et puis, dans ces peurs, dans les peurs qui sont le plus présentes chez les hommes, il y a la peur du rejet social, la peur d'être seul, bien la peur d'être jugé, la peur qu'on nous critique. Souvent, c'est ça qui fait que les gens ont peur de parler en public, comme on aura la mémoire. Et puis, il y a la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que j'aurai toujours un travail? Est-ce que je vais pouvoir payer tout mon crédit? C'est un risque. Bon, les jeunes, vous n'avez pas encore ces peurs. Finalement, la peur des gens vient des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui peuvent agir pour me faire du mal. Dans notre texte, on voit deux groupes d'hommes. Le premier, ce sont les disciples. Ils ont peur parce qu'ils sont face aux forces de la nature. S'il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est les forces de la nature. Je me souviens une fois, j'étais dans un avion, on est passé par une zone de turbulence. Là, c'était vraiment fort. J'étais en train de lire comme ça, et puis l'avion a vraiment bougé. Il y avait un groupe d'élèves, et tout le monde a commencé à crier, paniquer. Moi, j'ai fermé ma Bible, j'ai commencé à prier, Seigneur, sauve-moi. Là, tu te rends compte que tu es suspendu dans les airs, que tu es impuissant. La peur face aux forces de la nature, on ne peut pas contrôler, il n'y a rien à faire. Et le deuxième groupe est terrifié parce qu'ils sont devant des forces spirituelles et démoniaques. Et puis on voit, il y a la chose en commun entre les deux groupes. Les deux sont terrifiés quand ils se rendent compte de la puissance de Jésus. D'abord pour calmer le vent et la mer, les autres pour chasser un démon. Et là, ils ont peur de Jésus. Ils disent, lui, il est puissant. Donc je propose qu'on regarde les trois choses, la peur devant les éléments naturels, la peur devant les forces spirituelles démoniaques, et enfin la peur de Jésus. Et puis qu'on tire quelques implications. Bon, le texte est très long, comme vous avez vu, on ne va pas s'arrêter sur chaque verset, mais on va essayer de tirer la substance. Donc ça commence au verset 35 Donc d'abord, Jésus et les hommes terrifiés par les forces de la nature. Au verset 35, on dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. On se souvient, Gaël nous disait l'autre jour avec l'histoire de Zachée, comment Jésus avait résumé sa mission. Il avait dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc là, si vous regardez au chapitre 4, Jésus a prêché toute la journée, il y avait beaucoup de foule, il les a servis. Et dès que ça finit, il dit, passons à l'autre bord. Il veut toujours chercher. Il va chercher ceux qui sont perdus. Et qui sont ceux qui sont perdus? Tous les hommes. Mais on ne sait pas comment Dieu, dans sa souveraineté, va chercher certains comme il nous a trouvés. Donc là, eux, ils sont en train d'aller vers Gadara dès le départ. Et puis on dit, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc ils étaient vers Capernaum et il y a le lac de Galilée, le moyen, c'est de l'autre, c'est vraiment à l'opposé par rapport au lac. Donc le moyen le plus facile d'aller à Gadara, c'est de traverser le lac de Galilée. Mais j'ai regardé un peu le lac, c'était comment dire, un amas d'eau qui est en basse altitude et c'était au milieu des montagnes. Ce qui fait que souvent il y avait des vents, ça faisait un couloir de vent, et souvent le vent passait tellement fort que ça soulevait le lac. Donc c'était quelque chose d'habituel. Et puis les disciples auraient dû savoir, vu que c'était des pêcheurs qui travaillaient dans ce lac-là. Mais Jésus leur a dit, on y va, donc ils y vont. Peut-être qu'ils n'ont pas vu venir, peut-être que c'est le soir. Et donc, quand ils y vont, c'est ce jour-là qu'il y a un vent qui passe, on dit un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Quand on dit la barque se remplissait déjà, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous allez bientôt couler et vous allez mourir noyé. Et au verset 38, on dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Là, on nous rappelle que Jésus, bien qu'il soit Dieu, il avait pris la condition humaine. Donc Jésus il pouvait ressentir la fatigue. Et là, pendant toute une journée, il a parlé aux foules. Il est exténué, tellement exténué qu'il dort dans une tempête. Enfin, je me demande comment c'est possible. Mais c'est ce qu'on nous dit. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que Jésus, Dieu, n'a jamais peur. Est-ce que vous avez déjà réalisé que Dieu n'a jamais peur? Dieu n'est jamais inquiet. Dieu ne se dit jamais, comment je vais m'en sortir d'ici? Jésus dort en plein milieu de la tempête. Et puis les disciples viennent le réveiller. Au verset 39, on dit, S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ce passage m'a souvent intrigué, mais le vent n'a pas d'oreille. Comment le vent peut obéir à Jésus? Comment Jésus peut commander aux objets? Et en fait, je me suis dit, parfois, nous, on peut commander aux objets. On ne fait pas vous. Bon, je veux dire, si vous avez, par exemple, une télé, que vous avez une télécommande, vous n'allez pas parler, enfin, sauf si votre télé est high-tech, mais vous n'allez pas dire avec votre bouche de, que la télé change de chaîne, mais vous donnez un ordre quelque part à la télé en zappant. Ou si vous avez une voiture, avec les clés de votre voiture, certaines voitures, tu peux juste déverrouiller la portière juste en appuyant sur un bouton. Pourquoi c'est possible? Parce que le constructeur a mis quelque chose dans le programme qui fait que l'objet obéit à la commande. Donc pourquoi Jésus peut commander aux choses comme le vent, la mer? Parce que c'est Jésus qui a créé tout ça. Il y a quelque chose dans le programme du vent, de la mer qui connaît la voix du Créateur. Dans Jean, au début de l'évangile de Jean, on y dit « Toutes choses ont été créées par Jésus. Rien de ce qui existe existe sans Jésus. Tout ce qui existe a été créé par Jésus. Il n'y a pas une chose qui existe, un être qui existe, que Jésus n'a pas créé. Donc, il a l'autorité, il peut commander à n'importe quoi. Tout ce qu'il veut. Il y a un autre passage où la Bible dit « C'est en lui, par lui, pour lui que toutes choses ont été créées. » C'est par sa parole que tout subsiste. S'il y a une chose qui ne meurt pas demain, c'est parce que Jésus l'a bien voulu. Tout est dans le pouvoir de Jésus. Donc il a calmé la mer, il se tourne vers les disciples, il dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Moi, si j'étais disciple de Jésus, je lui ai dit, « Comment ça, pourquoi on a peur? On a failli se noyer. » Une seule fois, j'ai voyagé en bateau. J'étais en échange au Danemark et puis pour traverser, bref, il fallait prendre le bateau. C'est la seule fois où j'étais en mer et je ne voyais plus la terre. Moi ça me terrifie. Et à chaque fois, j'étais sur le balcon, à chaque fois que le bateau bougeait, c'est de toutes mes forces. Et là, ils sont dans une tempête. Et je leur ai dit, pourquoi avez-vous peur? Je dis, ah. Mais la question d'après nous aide à comprendre la réprimande de Jésus. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Les disciples étaient censés, à ce stade, savoir que Jésus avait beaucoup de puissance. Ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu guérir un paralytique, comme on l'a vu l'autre jour. Ils l'ont vu affirmer qu'il était Dieu. Mais dans cette période de tempête, ils ont eu des doutes. Il a dit, pourquoi avez-vous de foi? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Comme on a vu il y a quelques semaines, la foi en Dieu honore Dieu. Mais douter de Dieu, c'est une insulte à sa personne. C'est dire que Dieu ne peut pas. Et donc, c'est la raison. Et c'est pour ça que Jésus les réprimande. Ils étaient censés savoir à ce stade que Jésus était Dieu. Donc, après les hommes, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Là, ils n'ont plus peur du vent et la mer. Ils ont peur de celui qui peut calmer le vent et la mer. Et puis, on arrive au chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Donc, c'est leur destination, c'est là qu'ils venaient dès le départ. Et ici, Marc va nous introduire. Enfin, Marc avait déjà montré Jésus qui chassait les démons. Là, il va nous plonger dans un monde plus spirituel. Donc Jésus a l'autorité sur les forces de la nature. Mais est-ce qu'il a l'autorité dans le monde spirituel? C'est ça qu'on voit. Ils arrivent à l'autre bord. Et on dit au verset 2, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. » Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le monde spirituel, mais les démons savent aussitôt que Jésus arrive. Ils ont l'information en temps réel. Ils savent que Jésus est arrivé. Ils viennent devant lui. Donc, en parlant ça, je pense que c'est peut-être important de faire une brève définition de démons, enfin, du monde spirituel en tout cas. Donc, je crois qu'on est familier avec la phrase « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, dans la Bible nous parle d'un monde céleste, d'un monde spirituel, où il y a des anges, il y a tout un univers. L'Apocalypse, on dit qu'ils sont d'un nombre incalculable. C'est comme nous, on est des milliards. Dieu a aussi créé un univers spirituel où il y a des anges. Et puis, dans la Bible, on voit aussi, notamment dans l'Apocalypse, que plusieurs anges se sont rebellés contre Dieu. Donc, d'abord avec Lucifer qui voulait la place de Dieu. Et puis, on dit le tiers des anges l'a suivi. Donc, c'est eux qui sont aujourd'hui les démons. Donc, les démons, comment ils sont? Ce sont des anges déchus. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est les démons, enfin, donc c'est des esprits qui n'ont pas de corps matériel, mais des fois ils peuvent prendre possession d'un corps. Donc ils peuvent entrer dans un corps et le diriger. C'est ce qu'on voit ici. Donc on dit, cet homme est possédé d'un esprit impur. Donc on ne sait pas comment c'est arrivé, mais maintenant il contrôle cet homme. Et donc là, on peut se poser la question, mais comment ça arrive? Comment un homme arrive au point où il est possédé par un esprit impur? Et je ne pense pas que la Bible donne une réponse claire. Mais on voit que ça peut arriver. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne peut jamais arriver à un enfant de Dieu. Ça ne peut jamais arriver à un chrétien. Parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Un esprit impur ne peut pas venir en nous. Mais les démons, c'est aussi les ennemis de Dieu. Donc ils peuvent influencer les gens, les pousser à faire du mal. Et je crois, même parfois les chrétiens. On voit ça notamment quand l'apôtre Pierre va dire à Jésus, non, tu vas pas aller à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Arrière de moi, Satan. À ce moment, Satan essayait d'influencer Pierre pour qu'il dissuade Jésus de faire sa mission. Mais il n'avait pas pris possession du corps de Pierre. Je ne sais pas comment, mais les démons peuvent influencer, mais pas posséder les chrétiens. Donc cet homme est possédé. Et puis au verset 3, on nous dit qu'il avait cette démon, sa demeure dans les sépulcres. Donc ce qu'on voit, c'est que le Satan et les démons poussent les hommes vers les habitudes morbides et autodestructrices. On disait au verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait les fers. Alors c'est au verset 5, on dit il allait sur les montagnes, il se meurtrissait avec des pierres. On voit que le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. Et cet homme en est la preuve. Et puis au verset 3, on apprend aussi que les démons ont une force surnaturelle que les hommes ne peuvent pas maîtriser. On dit personne ne pouvait le lier. Et quand on lui mettait des fers, il brisait. Donc au verset 7, on apprend aussi quelque chose sur les démons. Ils savent qu'un jour, Jésus va les tourmenter. La Bible nous dit que Dieu a prévu un jour, le jour du jugement, où il va punir tous ses adversaires. Donc au verset 7, ils disent, ne me tourmente pas. Il y a une autre version qui dit, est-ce que tu veux nous tourmenter avant le temps? Donc les démons savent qu'il y a un jour que Dieu a fixé, où il va juger toutes les créatures et les démons. Quelque part, Jésus disait aux hommes, pourquoi voulez-vous un enfer? L'enfer a été prévu pour le diable et ses démons. L'enfer, c'est une place qui, à la base, était prévue pour les démons. Au verset 9, il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car ils sont plusieurs. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais cet homme a probablement des milliers de démons en lui. Enfin, Légion, dans l'armée romaine, c'était l'équivalent d'à peu près 5 000 hommes. Et cet homme dit, enfin, et ce démon est en train de dire à Jésus qu'il a qu'il est une légion de démons en lui. Et puis au verset 12 et 13, les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées. Il y avait environ 2 000, ils se noyèrent dans la mer. Alors, comment comprendre? Moi, enfin, je ne sais pas vous, mais en lisant ce texte, je me dis, mais comment Jésus accepte la prière des démons? Il leur demande l'autorisation. Dans les pourceaux. Et Jésus leur accorde cette permission. Alors et puis aussi, après les cochons meurent. Donc, mais pourquoi Jésus permet que les biens des bergers de cochons soient détruits? Ils perdent leur patrimoine. Je ne sais pas si ces questions vous intriguent, mais moi, c'est toujours une question qui m'intrigue en regardant ce passage. D'abord, comment comprendre que Jésus accède à leur demande? En tout cas, ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que les démons ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Si vous vous souvenez de l'histoire de Job, un moment, Satan lui-même a voulu éprouver Job, il a voulu détruire ses biens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord dire à Dieu. Dieu lui dit, tu peux l'éprouver, mais tu ne peux pas toucher à sa vie. Les démons ne sont pas autonomes. Le diable ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Et Jésus est le Seigneur de tout l'univers, et même les démons lui sont soumis. Et après, concernant la paire des cochons, je me suis dit, il vaut mieux sauver la vie d'un homme plutôt qu'un troupeau de cochons. Jésus nous montre que l'homme, enfin, la Bible nous rappelle que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et même devant la vie de plusieurs cochons, ne peut pas avoir la valeur de la vie d'un homme. Et puis aussi, une chose, je ne connais pas tout le raisonnement de Jésus, mais une chose qu'on constate avec cet acte de Jésus, c'est que on a la preuve que s'il y avait un démon dans cet homme. Sinon, les gens qui voyaient allaient juste dire non, c'était peut-être un malade mental et Jésus l'a guéri. Mais quand Jésus fait un transfert de l'homme vers les cochons, ça prouve que cet homme n'était pas juste malade, mais qu'il y avait vraiment un esprit en lui. Et les propriétaires du troupeau, j'ai envie de me dire que bon, Dieu peut-être les a compensés, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui nous appartient d'abord à Dieu. Dans Job 41, verset 11, il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Tout sous le ciel m'appartient. Je suis convaincu que Dieu ne peut pas faire d'injustice. Et aussi, imaginons juste s'il y avait une urgence. Si vous aviez un bouton en main, vous voyez une voiture foncer vers un enfant. Si vous pouviez soit détruire la voiture, soit laisser que ça arrive, qu'est-ce que vous choisiriez? Je pense qu'on détruirait la voiture. Si c'est ma voiture, je comprendrais. Donc là, Jésus a sacrifié, oui, quelque chose qui avait de la valeur pour ces hommes. Et c'était pour sauver une vie qui a infiniment plus de valeur que n'importe quelle autre chose sur Terre. On dit ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Dans le texte, on ne nous dit pas, mais on voit qu'il y a un temps qui s'est écoulé, le temps qui part, qui disent à tout le monde, peut-être que Jésus reste avec cet homme-là, peut-être que Jésus lui a expliqué qui il était, etc. Parce qu'à la fin, on voit qu'il dit à cet homme d'aller dire ce que le Seigneur a fait pour lui. En troisième lieu, on voit une peur commune à ces deux groupes, c'est la peur de Jésus. Comme on voit, on a peur en général de ce qui menace notre existence. Et surtout le deuxième groupe, au verset 17, on dit, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils se disent, si cet homme est aussi puissant, c'est qu'il peut faire de nous ce qu'il veut. Imaginez tout le pouvoir de Jésus à un homme égoïste qui cherche ses intérêts. On le voit dans le monde, souvent les plus puissants, les pays les plus puissants partent coloniser d'autres, prennent leurs biens. Quelqu'un avec le pouvoir de Jésus pourrait juste dire, bon maintenant, vous ça c'est ma ville, je suis votre roi. Tout votre travail, vous allez me donner tout l'argent. Et c'est ce que les colons faisaient, ce que les Romains faisaient. Donc ces hommes viennent supplier Jésus. Ils savent qu'ils ne peuvent rien contre lui. Ils ont peur, ils le supplient de partir. Et puis, non seulement on voit les disciples ont peur de Jésus, on voit le deuxième groupe qui a peur de Jésus, mais aussi les démons qui ont peur de Jésus. Parce que Jésus peut être une menace, quelqu'un avec le pouvoir de Jésus peut être une menace pour notre existence. Mais on sait que ce n'est pas le cas, parce qu'on sait qu'à côté de ça, Jésus c'est aussi un Dieu aimant qui donne sa vie pour ses créatures. Donc ça, c'est pour le parcours du texte. Et sur la base de cette histoire, je voudrais nous inviter à regarder à trois implications que je nous suggère de regarder dans ce texte. La première, c'est que je pense qu'en nous, en tant que chrétiens, on doit chercher à avoir une plus grande révélation de qui est Jésus. Je crois que Marc veut nous montrer qu'à un moment, Jésus a révélé sa puissance à ses disciples. Ils étaient tout le temps avec lui, ils marchaient tout le temps, mais un jour, ils se sont dit, quel est cet homme? Si je vous demandais quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, est-ce que c'est prier Dieu chaque matin? Je crois qu'il faut le faire, je crois que c'est super important. Est-ce que c'est prier avant le repas? C'est important aussi. Est-ce que c'est être régulier à l'église? Est-ce que c'est chanter? C'est très important toutes ces choses. Mais je crois que la chose la plus importante pour un chrétien, c'est connaître Jésus. Et comment connaître Jésus? C'est comme connaître quelqu'un. C'est en passant du temps avec la personne. Plus on fréquente quelqu'un, plus on commence à savoir ses qualités, ses défauts. On commence à anticiper ses réactions. De la même manière, pour connaître Jésus, il faut passer du temps dans sa parole. C'est une des choses que je tire de cette série sur la rencontre de Jésus. On voit qui est Jésus, on voit qui est le Fils de Dieu. Et une chose qu'on voit ici, c'est que Jésus est tout-puissant. Mais au-delà de passer du temps dans la lecture pour connaître les histoires sur Jésus, je pense qu'une part très importante pour connaître Jésus, c'est prier pour dire: Seigneur, montre-moi qui tu es. Je vous invite vraiment à faire ces prières. Seigneur, révèle-moi, ou bien Dieu, révèle-moi le Fils. Révèle-moi qui est Jésus. Je pense que sans la prière, c'est quelque chose qui ne peut pas être accompli. Je me souviens, ma mère me disait souvent, écouter la parole de Dieu, c'est comme verser l'eau sur un caillou. Tu peux verser toute l'eau que tu veux sur un caillou, mais ça ne va jamais pénétrer le caillou. C'est le Saint-Esprit qui peut faire que ces paroles pénètrent en nous et qu'on réalise Jésus est Seigneur. On dit que Jésus est le Seigneur, c'est pour dire qu'il a tous les pouvoirs. Et ce texte nous apprend ça. Une autre implication qu'on peut tirer de ce texte, c'est que rien ne va nous arriver qui est en dehors du contrôle de Dieu. Les tempêtes, les démons et tout ce que vous pouvez imaginer de grave, rien ne va arriver qui est en dehors du, qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. J'aimais cette phrase au verset 40 du chapitre 4. Il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Et je crois que Jésus pourrait nous dire, pour ce qui nous fait peur: pourquoi avez-vous peur? Si nous avons mis notre foi en Jésus, il n'y a rien qui peut nous arriver qui soit en dehors du contrôle de Dieu. Et même les situations difficiles et douloureuses, et on est des humains, on est sur terre, il y aura des situations difficiles et douloureuses, mais il n'y a rien qui ne soit en dehors du contrôle de Dieu. Donc, comme on voyait, enfin, on a peur de ce qu'on ne peut pas contrôler, mais Dieu, lui, il contrôle tout. J'aime ce passage dans Romains 8, les versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, peut-être aussi des démons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La troisième implication qu'on peut tirer de ce texte, c'est qu'il y a un monde spirituel et des esprits méchants qui essayent de nous éloigner de Dieu et qui essayent même de nous faire du mal spirituel et quelquefois physique. On ne veut pas exagérer et parler tout le temps des démons, etc. Mais on ne veut pas ignorer. On est, en tant que chrétien, on est vraiment dans un combat, on a vraiment un adversaire qui essaye de nous faire du mal, le diable. Je suis tombé sur cette citation de C.S. Lewis qui dit: il y a deux erreurs égales et opposées dans lesquelles notre race peut tomber au sujet des démons. L'une est de ne pas croire à leur existence, l'autre est d'y croire et de ressentir pour eux un intérêt excessif et malsain. Ne pas croire que les démons n'existent pas, c'est une erreur. Mais croire que les démons existent et penser, de leur donner un pouvoir excessif, c'est aussi une autre erreur. On sait qu'ils existent, mais on sait qu'ils sont soumis à l'autorité de Dieu. Ils ne peuvent rien faire sans l'autorité de Jésus. Je nous laisse avec cette quelques versets dans le psaume 91. Je vous invite à méditer, peut-être mémoriser si on peut ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis l'on verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc je nous laisse avec cette parole qui nous rassure que oui, il y a des menaces physiques, invisibles, dans le monde matériel, dans le monde spirituel. Mais il n'y a aucun malheur qui peut nous arriver, aucun fléau qui peut approcher celui qui a mis sa foi en Jésus. J'ai prié pour vous. Notre Dieu, notre Père, je te prie pour moi et pour toute l'assemblée. Je te prie que tu nous révèles Jésus-Christ. Père, je te supplie que tu nous aides à réaliser que tout l'univers a été créé par lui, par sa parole, et que tout l'univers subsiste parce qu'il veut bien, et que tout l'univers un jour va s'arrêter au moment où il aura décidé. Là, je te supplie que tu nous révèles que Jésus est le Tout-Puissant, il a tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Là, je te supplie aussi